Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler emploi. Comment bien préparer son dossier de candidature? Monsieur Alain Poutou, expert en ressources humaines et formateur au centre des reconversions, au centre des formations et des reconversions professionnelles, est avec moi dans ce studio. Monsieur Poutou, bonjour.
Bonjour, monsieur le messager de la reconversion professionnelle. Merci pour votre invitation.
C'est plutôt vous qui prêchez la reconversion professionnelle. Merci d'être venu. Vous allez nous en dire encore un peu plus aujourd'hui. Des questions et préoccupations? Le standard est déjà ouvert. Composez le 085 42 11 547. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Esther Mamboté assure les lives sur les plateformes digitales de Radio Capi. Benjamin Moutoumbi coordonne et réalise cette émission. Alain Goy à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Radio Capi, le sucre du Congo.
Bien, vous êtes tombé sur une offre d'emploi qui vous intéresse et vous comptez postuler. Il est indispensable de bien préparer, sachez qu'il est vraiment important de bien préparer votre dossier de candidature pour convaincre le recruteur de vous sélectionner pour une entrevue d'embauche. Le candidat doit mettre toutes les chances de son côté en réunissant tous les documents pouvant appuyer sa candidature, notamment les diplômes, etc. D'après nos sources, une grande partie des dossiers de candidature sont rejetés, non pas par manque de compétences du candidat, mais par manque de soins. Dans un marché de l'emploi concurrentiel, un dossier bâclé est éliminé immédiatement. Bien que le rejet soit une composante inévitable de la recherche d'emploi, personne n'aime être recalé. Une réponse négative peut s'avérer démoralisante pour un candidat. Alors comment bien préparer son dossier et les candidatures de manière à éviter le rejet, voire l'absence de réponse de la part du recruteur? Monsieur Alain Poutou est expert en ressources humaines et formateur au centre de formation et de reconversion professionnelle. Monsieur Poutou, alors, je tombe sur une offre d'emploi, ça m'intéresse, je veux absolument avoir ces postes. Alors, comment préparer mon dossier des candidatures pour retenir l'attention du recruteur?
Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Je profite de votre micro pour saluer tous les auditeurs de la radio Okapi, particulièrement ceux qui sont des abonnés permanents d'Okapi Service, surtout les étudiants que moi j'appelle les chrétiens de l'école de la reconversion professionnelle. Mmh. Alors, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que lorsque vous sortez fraîchement de l'université, vous tombez sur une offre d'emploi telle que vous venez de le dire tout à l'heure, ce n'est pas intéressant de postuler directement. Ça, c'est très important parce que c'est l'erreur souvent que beaucoup commettent. Ils rencontrent des offres d'emploi, ils tombent sur une offre d'emploi puisque la personne a un diplôme universitaire. Elle s'est dit qu'effectivement, c'est moi qu'on cherche. Très souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils vont juste en bas de l'offre, la dernière partie de l'offre, ils regardent les diplômes exigés dans l'offre et la constitution du dossier. Si dans l'offre d'emploi, on a exigé un diplôme en sciences politiques et administratives, et que celle-ci a un diplôme en sciences politiques et administratives, du coup, les candidats pensent que c'est lui qu'on cherche. Alors, les diplômes, c'est parmi, en fait, les critères ou les exigences du poste. Mais ce n'est pas la seule exigence. D'où, il y a un point important que les chercheurs d'emploi doivent comprendre. Lorsque vous tombez sur une offre d'emploi, ce qui serait mieux à faire, c'est d'abord d'examiner l'offre. Je ne dis pas qu'il faut retenir les titres et les diplômes, non. Prenez vraiment votre temps.
D'analyser l'offre
de fond en comble. Qu'est-ce que vous allez regarder? D'abord, les titres du poste. Qui est-ce qu'on cherche? Exemple, il y a Médecins sans frontières qui a publié une offre d'emploi, ou Solidarité internationale qui a publié une offre d'emploi sur Média Congo. Ils sont en train de recruter un logisticien ou un assistant administratif. Prenons ça par exemple comme offre d'emploi. Ça, c'est déjà les titres du poste. Mais le deuxième élément, l'objectif du poste, la raison pour laquelle l'offre est publiée. En d'autres termes, la motivation de l'ouverture du poste.
Oui.
Parce que vous trouverez quelque part un recruteur sérieux ou un service de ressources humaines organisé. Lorsque on publie l'offre d'emploi, à part les titres du poste, on doit faire une brève explication de la motivation, le but, l'objectif pour lequel on publie l'offre. Ça, il faut comprendre ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient en appui au projet? Est-ce que quelqu'un qui vient en appui au responsable qui est là pour le détacher à des tâches préliminaires? Il faut d'abord comprendre la motivation.
Oui.
À part ça, un autre élément important, c'est les job description, c'est-à-dire la description du poste, les tâches, les activités. Qu'est-ce que la personne viendra faire? Celui qu'on est en train de recruter, logisticien ou assistant administratif.
Quelles sont ses tâches?
Quelles sont ses tâches, ses attributions journalières? Et ça, il faut prendre le temps d'examiner ça en détail. Ne faites pas de la lecture des kangourous, non.
Faut prenez pas être vraiment, pressé.
Non,
prenez vraiment le temps de lire et de relire.
Et quand vous faites cette analyse, monsieur le journaliste, vous devez être muni de votre bloc-notes et d'un stylo. Il faut noter. Ce n'est pas que vous faites une lecture comme si vous mémorisez. Non, il faut noter ça. C'est-à-dire les points clés de l'offre d'emploi. Il faut noter. Après la description du poste ou les job description ou les tâches spécifiques du poste, parce qu'il y a certaines offres d'emploi, on indique les tâches générales et les tâches spécifiques. Alors, à part ces points, il faut regarder aussi ce qu'on appelle les termes de référence, c'est-à-dire les exigences du poste. Alors, là, je vais vraiment prendre du temps. Je serai beaucoup plus andragogique pour expliquer un peu. Il y a ce qu'on appelle les exigences du poste, c'est-à-dire là, vous trouverez la qualification. Par exemple, ils ont besoin d'un licencié ou d'un gradué, par exemple, et que vous avez un diplôme de troisième cycle, alors que dans l'offre d'emploi, on exige un diplôme de gradué. Ou alors, on a exigé un diplôme de gradué, mais vous avez la licence. Ça, c'est déjà des choses qui doivent attirer votre attention. Je vais y arriver plus tard, comment mettre ça maintenant dans les dossiers.
Oui.
Alors, il faut regarder aussi les qualités requises. Quelles sont les qualités requises pour la personne qui doit postuler? Par exemple, je prends ce qu'on appelle les qualités interpersonnelles. On a besoin d'un logisticien. Mais parmi les qualités interpersonnelles, on a besoin d'une personne qui est dynamique, quelqu'un qui peut travailler en équipe, qui peut travailler sous pression. Mais vous êtes un flegmatique, quelqu'un qui a tempérament introverti. Ça déjà, ce sont des éléments qui doivent attirer votre attention. C'est pour cela que j'ai dit, il faut très bien comprendre ça. Aussi, les compétences techniques. Ça, il ne faut pas confondre ça avec les job descriptions. Parce que dans l'offre d'emploi, on a les job description et on a aussi les job profile. C'est-à-dire, il y a les profils de poste et la description
du poste.
Donc, ce sont deux choses, en tout cas complètement
différentes.
Il ne faut pas confondre ça.
Oui.
Vous pouvez comprendre les tâches du poste, les attributions, ce que la personne doit faire au quotidien. Mais quel est le profil recherché? Qui est-ce qu'on cherche réellement? Cette personne qu'on est en train de recruter devrait avoir quel niveau d'études et doit avoir fait quel genre de un niveau d'études, on peut dire gradué ou licencié, mais de quel domaine par exemple.
Oui.
Il y a aussi les compétences techniques. Je vais prendre un exemple. On a besoin de recruter un logisticien. Au-delà des tâches journalières, au-delà des tâches quotidiennes, un logisticien doit avoir comme compétence la maîtrise de la procédure d'achat. Quelqu'un qui doit connaître la procédure. Faire des achats au quotidien est une chose, mais la procédure pour arriver
en est une autre.
C'est comme par exemple, on entend souvent des procès pour des marchés qui ont été octroyés en violation de la procédure, par exemple, des passations. Donc une personne qui doit postuler à la logistique doit avoir de la maîtrise sur la procédure. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on veut faire les achats, par exemple, vous êtes dans une organisation internationale ou dans une entreprise, ou vous êtes dans un projet comme logisticien, on veut faire l'acquisition des matériels. Vous voyez, quelle est la procédure qu'on doit suivre allant de la réquisition, par exemple, de la manifestation de besoins, jusqu'à la réception des articles commandés. Toutes ces étapes-là, ça fait partie de ce qu'on appelle les exigences de poste. Par exemple, la connaissance des exigences et des procédures des bailleurs de fonds. Vous êtes un logisticien dans une organisation internationale ou humanitaire. Il y a chaque bailleur de fonds, par exemple, a aussi
sa procédure à lui.
Voilà, ses spécificités. Je vous donne un exemple. Vous avez été en mission de service en dehors du pays pour les cadres du projet. Lorsque vous revenez, vous devez remettre aux finances, dans la justification de dépenses engagées, il y a aussi les boarding pass. Mais vous pouvez être imprudent, comme c'est juste un bout de papier, vous pouvez l'égarer. Oui. Mais la procédure du bailleur voudrait à ce que, pour des dépenses engagées lors d'un voyage ou...
Le boarding pass doit être là. Oui, on doit voir la preuve justifiée.
Tout à fait. Alors ça, ce n'est pas l'université qu'on va vous enseigner cette procédure ici. Donc, vous devez aussi tenir compte de ça. Il y a aussi un autre élément. Par exemple, les compétences pour l'utilisation de l'outil informatique. Il y a des offres d'emploi, c'est très bien expliqué, qu'il faut maîtriser les Word, l'Excel, les PowerPoint, les Outlook. Tout ça, ça fait partie des exigences du poste. Il y a la maîtrise, par exemple, des langues.
Oui.
Vous voulez travailler dans une organisation anglaise, même si notre loi congolaise reconnaît le français comme langue officielle, langue d'administration. Mais lorsque vous devez avoir un responsable, par exemple, vous êtes basé ici, mais votre, comment on appelle ça, les responsables techniques peut être en Europe, dans un pays anglophone.
Oui.
Et c'est à lui que vous devez rendre compte de votre travail. Figurez-vous que lui ne connaît pas, il parle pas français, il parle anglais.
Il parle anglais, oui.
Vous parlez français, vous parlez pas anglais.
Et comment vous allez communiquer?
Voilà, comment vous allez communiquer. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut regarder.
Oui.
Un autre élément important, c'est aussi les contraintes du poste. Je prends un autre exemple. Vous êtes appelé à être tout le temps en mouvement. On publie une offre d'emploi d'un chargé de monitoring ou de suivi évaluation, quelqu'un qui est censé faire tout le temps des descentes sur terrain, mais vous avez des contraintes qui ne peuvent pas vous permettre d'être tout le temps en mouvement. Ça, ce sont des choses qu'il faut regarder aussi dans l'offre d'emploi. Il y a aussi un autre point, c'est la composition du dossier de candidature. Certains recruteurs précisent même dans l'offre,
les éléments qu'il faut
les éléments qu'il faut mettre dans les dossiers.
Généralement, c'est quoi? Les diplômes
Bon, en fait, normalement, les diplômes n'est pas indispensable lorsqu'on postule. Beaucoup de recruteurs, en un premier temps, c'est les CV, la lettre de motivation. Une fois qu'ils trouvent que ces CV, la lettre de motivation, correspond à la philosophie et à l'esprit de l'offre, c'est en ce moment-là, lorsque le processus est en train d'évoluer, qu'ils seront peut-être appelés à vous demander de produire les différents documents, les copies des diplômes, si vous avez indiqué dans les CV que vous avez déjà travaillé quelque part ou vous avez effectué un stage académique ou professionnel.
Il faut apporter les preuves.
Oui, parce que tous ces éléments-là, il faut les mettre aussi dans les CV. Ça, c'est important. Il y a aussi les personnes de référence. Raison pour laquelle, quand vous regardez dans beaucoup d'offres d'emploi, on détermine un CV détaillé et actualisé avec trois personnes de référence. Oui, ça, on parle de référence professionnelle. Il n'est pas ici question de mettre votre tendre et chère épouse ou bien que la femme mette son mari comme personne de référence ou le fils qui met son père. Non.
C'est qui cette personne? Qui sont ces personnes?
Oui, on va y arriver. On parle plus de référence professionnelle.
Professionnelle.
Vous voyez, par exemple, chez vous ici, vous recevez les stagiaires professionnels ou académiques qui sont ici. Normalement, ils passent tout leur temps avec vous ici, sur le plan professionnel.
Oui.
Vous êtes en train de leur apprendre les métiers. Ils peuvent passer un mois, deux mois, trois mois, voire même six mois. Mais vous, qui les avez encadrés, vous qui êtes en train de les former au quotidien, vous êtes déjà des personnes de référence pour ces stagiaires. Donc, dans leur CV, ces stagiaires doivent aussi indiquer la période où ils passent leur stage ici, à la radio, au CAPI, mais aussi, qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Ils doivent mettre ça dans les CV, et vous qui êtes leurs encadrés, leurs formateurs terrain, vous devez figurer comme personne de référence, c'est-à-dire la dixième rubrique de leur CV, ce sont ces trois personnes de référence. Alors, quand vous regardez tous ces éléments, maintenant, la deuxième étape après l'analyse, parce que la première étape, j'étais en train d'expliquer de l'analyse de l'offre. Quand on analyse l'offre, on voit les termes de référence, on voit aussi la description des tâches. Mais il y a un élément aussi important, monsieur le journaliste, qu'on doit regarder lorsqu'on analyse l'offre. À qui est-ce qu'on s'adresse? Si je dois maintenant préparer mon dossier de candidature, je dois l'envoyer à qui? Je m'adresse à qui? Parce que souvent, le commun des mortels est habitué à adresser la candidature au chef du personnel ou au directeur des ressources,
humaines.
Alors que dans d'autres organisations, on s'adresse par exemple au chargé des programmes ou au responsable des projets ou au chef des missions. Donc il faut faire très attention, il faut lire pour savoir qui sera le destinataire de votre candidature. Alors, si l'offre d'emploi n'a pas indiqué de manière expresse les destinataires de la candidature, c'est en ce moment-là qu'on s'adresse aux responsables des ressources humaines. Ça, c'est important. Alors, quand vous terminez maintenant cette analyse, la deuxième étape maintenant, c'est quoi? C'est de faire la comparaison entre les exigences du poste et vos compétences à vous. Ça, c'est très important. Donc, ça doit être dans un tableau. D'un côté, vous reprenez toutes les exigences du poste.
Du poste, oui.
Oui, vous mettez par exemple, le premier point, c'est les job descriptions. Est-ce que je comprends les tâches ici, telles qu'éclatées? Deuxième élément, ça peut être les diplômes. Ils ont besoin d'un diplôme de graduat. Bon, vous êtes licencié. Qu'est-ce que je dois mettre dans les CV? Est-ce que je mets mon diplôme de licence ou je vais m'arrêter comme si je n'avais pas fait la licence et que mes études se sont arrêtées au graduat. Ça, c'est important. Pourquoi? Ce qui est autorisé aux ressources humaines, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on a besoin d'un licencié et que vous êtes gradué, vous pouvez postuler. Mais on a besoin d'un licencié, d'un gradué plutôt, vous êtes licencié, c'est pas intéressant de mettre la licence, c'est-à-dire le diplôme le plus élevé par rapport au diplôme exigé.
Voilà.
Oui, ça c'est vraiment ça, il faut que les auditeurs notent, ça c'est une erreur que beaucoup...
Il faut pas mettre tous les diplômes...
Non, il faut vraiment regarder les diplômes exigés, les niveaux d'études exigés dans l'offre. Bon, mais maintenant, vous mettez ça avec tous les critères. Maintenant, vous commencez vous-même à faire l'auto-évaluation. C'est-à-dire, par exemple, la compréhension du job description. Sur 5, qu'est-ce que je comprends? Est-ce que les tâches telles qu'éclatées, est-ce que moi je comprends comment est-ce qu'on les exécute?
On les exécute, voilà.
Vous pouvez imaginer, oui, je comprends, ou c'est moyen.
Ou je ne comprends pas très bien, alors à ce moment-là, voilà, il faut se faire assister.
Très bien. Alors, vous regardez par exemple les diplômes, ils ont besoin d'un diplôme en économie. Bon, moi j'ai un diplôme en interprétariat par exemple, ou en relations internationales. Bon, est-ce que c'est le diplôme approprié? Je peux dire non. Bon, je vais maintenant dans les autres conditions. Utilisation de l'outil informatique, je regarde, est-ce que quel est mon niveau pour manipuler les Word, Excel. Quand j'ai fini, maintenant, je dois être sincère vis-à-vis de moi-même. Entre ce qui est demandé dans l'offre, et mes compétences, c'est que moi je maîtrise par rapport aussi à mon parcours. Je vais me poser la question, si je devais répondre à cette offre d'emploi, quelle est la probabilité de la chance que j'ai pour être retenu? Si vous-même, en regardant, parce qu'il faut être sincère, si vous regardez, vous dites non, ça là, si je postule, honnêtement, ça ne peut pas passer. Là, il ne faut pas postuler. Mais au moins, ça vous a permis de comprendre ce que c'est un logisticien. Quelles sont les compétences exigées pour un logisticien, par exemple? Que fait un logisticien? Alors, en ce moment-là, vous êtes maintenant allé censé chercher, laisser cette offre passer, ne postulez pas. Allez-y acquérir les compétences pour être conforme à l'offre d'emploi. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de se faire assister par un conseiller en insertion professionnelle. Parce que le conseiller en insertion professionnelle, lui, son rôle, c'est ensemble avec vous, vous allez vous mettre autour d'une table pour élaborer ce qu'on appelle les parcours professionnels. Donc, c'est avec l'expert ou le conseiller en insertion professionnelle que vous allez maintenant commencer à préparer, premièrement, le CV. Parce que, en tout cas, le CV doit être adapté aux exigences du poste.
Du poste. À l'instant, on va accueillir les auditeurs. Trudon Hardy Mpinga est en ligne depuis la ville de Kananga. Ernest Lukumwena Kalala nous appelle depuis Bamako, au Mali. Trudon Hardy Mpinga, bonjour.
Bonjour, bonjour à la radio et à tous les auditeurs.
Quelle est votre question, Trudon Hardy Mpinga?
Oui, je pense que l'idée selon laquelle les candidatures sont visitées uniquement par manque de fin mérite d'être fiancé. Aujourd'hui, plusieurs critères étrangers, par exemple, certaines organisations utilisent les items d'analyse de TV, ATS. Si un candidat reprend exactement le mot du TDR, comme par exemple reporting ou monitoring, mais utilise les mêmes titres là. Exemple, il y a vision mondiale critère ou du monitor. Alors, les candidats se permettent de mettre sur le CV moniteur de vivre, par exemple. Alors, au moment où le CV sera inséré dans le logiciel pour l'analyse et que le logiciel ne trouve pas de mots anglais sur le CV, il sera déclassé à moins de 6 secondes. Ensuite, beaucoup de candidats font l'erreur de lister des tâches au lieu de démontrer leur impact. Exemple, il va dire, comme on a cherché un logisticien, quelles sont les tâches d'un logisticien. Il va lister des tâches là au lieu de montrer son impact positif au poste qu'il a déjà occupé précédemment. Alors, j'étais en train de dire, par exemple, le cas d'un enquêteur. Au lieu qu'il dise qu'il a collecté des données auprès, par exemple, de 300 ménages à peu près 98% de fiabilité ayant contribué à la prise de décision, lui, il va commencer tout à l'heure, on collecte des données, des centres sur le terrain. Alors, et aujourd'hui, les recruteurs veulent des résultats chiffrés. Par ailleurs, dans l'être de motivation, plusieurs candidats répètent simplement le contenu du CV, ce qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Ma préoccupation est la suivante. Pourquoi les recruteurs ne donnent-ils presque jamais le feedback aux candidatures non retenues pour améliorer leur CV? Pourquoi ne reçoivent-ils pas certains CV rejetés automatiquement par les logiciels, sachant que l'erreur peut venir du système? Et enfin, quels sont les petits détails qui peuvent éliminer un bon candidat malgré ses compétences?
Bien, merci beaucoup pour toutes ces préoccupations. Monsieur Lukumwena, vous êtes à Bamako, au Mali. Bonjour.
Oui, bonjour à notre invité et aux auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, monsieur Lukumwena?
Très bien. Alors, j'ai deux questions à poser à notre invité. La première question reste de savoir... Dans le contexte où de nombreux candidats dénoncent les favoritismes et le manque de transparence dans les recrutements en RDC, quelles mesures concrètes que les employeurs devraient-ils mettre en place pour garantir que la sélection repose réellement sur les compétences et non sur les relations personnelles? Et la deuxième question, étant donné que beaucoup de dossiers de candidature sont rejetés, non par manque de compétences, mais par... manque de soins et de structures, quelles initiatives pourraient être mises en place pour accompagner les jeunes diplômés dans la préparation des dossiers conformes aux standards internationaux? Merci beaucoup.
Bien, merci pour toutes ces questions. Monsieur Alain Foutou, à vous la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais commencer par notre ami Lukumwena. Oui, qui nous...
Lukumwena depuis Bamako. Le Mali.
Oui. Le Mali, ok. Merci beaucoup. Alors, sa première question, quelles sont les mesures que les recruteurs peuvent mettre en place pour garantir l'équité ou l'objectivité du processus de recrutement. Ici, il fait référence à certains candidats qui décrit les clientélisme, le favoritisme. Bon, en fait, monsieur le journaliste, j'aime rester technicien en lieu place. C'est vrai. J'entends souvent les auditeurs, hein, à chaque fois qu'on a des émissions, les gens décrivent le fait que pour recruter aujourd'hui, il faut avoir des parapluies, il faut avoir des relations, il faut être recommandé. Ce sont des pratiques, à mon avis, qu'on doit décourager. Ce n'est pas bon. Parce que si aujourd'hui, vous, messieurs les journalistes, vous devez être retenu ou recruté quelque part, peu importe que vous ayez des compétences ou pas, parce que c'est lui qui est là, c'est votre frère ou c'est votre autorité morale de votre parti politique. Mais c'est lui qui n'a pas de relation, qui n'a pas d'affinité. Qu'est-ce que la personne doit faire? Elle ne doit plus travailler. Donc, si c'est que les auditeurs sont en train de décrier ici, si c'est vraiment la pratique, moi, je suggère qu'on puisse décourager ça. Faisons un effort d'être objectif. Donnons la chance à tout le monde. Que les compétences puissent primer en lieu et place de favoriser les gens de l'obédience ou quoi. Ça, c'est pas vraiment bon.
C'est pas bon.
Alors, pour garantir le processus, d'abord, la première des choses, il faut publier l'offre. Ça, c'est très important. Il faut éviter les recrutements des bouches à l'oreille. Il faut publier. Maintenant, à chaque étape, il y a la première étape, c'est-à-dire quand les gens postulent, on fait la présélection. Vous pouvez postuler à 5 000 ou à 1 000, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'emploi. Mais on ne doit pas convoquer ou faire venir tout le monde pour la première étape. On doit faire la présélection. C'est ce qui serait mieux à faire, c'est quoi? C'est que même si vous présélectionnez 10 personnes qui vont passer à la prochaine étape, ce serait intéressant. Moi, j'apprécie beaucoup la manière dont les organisations internationales fonctionnent. Vous postulez, on fait la shortlist, on fait la présélection, et puis on affiche. On vous dit les personnes dont les noms et postes n'ont repris, si après sont retenus pour les tests écrits, par exemple. Au moins, ceux qui avaient postulé, quand ils ne voient pas leur nom, ils savent.
Ils comprennent que voilà, on n'a pas été retenu.
Ça devrait être fait comme ça, mais malheureusement, certaines structures telles qu'ils sont en train d'expliquer ne le font pas. Alors, quelle initiative qu'on doit mettre en place pour encadrer ou encourager ou orienter les jeunes qui finissent les études à bien préparer leur dossier de candidature? Effectivement, ça ne concerne pas que ceux qui ont fini les études. Même ceux qui travaillent perdent aussi l'emploi. Soit vous avez commis une faute lourde, on vous met dehors, ou alors l'entreprise traverse
des moments difficiles,
ils vont restructurer, réduire l'effectif.
Il y a aussi congé technique.
Il y a aussi vous pouvez être là, comme les cas qu'il a évoqué un peu. On change, par exemple, des mandataires où c'est celui qui vient a besoin de travailler avec...
Avec ces gens-lui.
Que vous ayez commis une faute ou pas, que vous soyez compétent.
On vous met dehors.
Oui, sans problème. Ça, vous n'avez même pas des cheveux sur la tête, mais on vous cherche
on
vous met dehors.
On cherche des petits...
Vous devez vous réintégrer. Oui. Donc, c'est pour cela que l'accompagnement ici concerne tout le monde qui est appelé à chercher de l'emploi ou à travailler. Alors, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les centres de formation et de reconversion professionnelle qui a pour mission, premièrement, de pallier la problématique de l'inadéquation, de l'incompatibilité qu'il y a entre les systèmes éducatifs et les exigences du marché de l'emploi. Parce qu'il s'observe un décalage total entre les filières qui sont organisées dans les universités et les intitulés des offres d'emploi qu'on trouve sur le terrain. Donc, on constate que les besoins actuels du marché de l'emploi ne cadrent pas avec des filières et des facultés que nous avons dans nos universités. Raison pour laquelle nous avons créé ces cabinets d'orientation, de formation, des conseils et d'appui à l'insertion professionnelle pour aussi apporter notre contribution aux efforts du gouvernement.
Et en plus de cela, vous faites des tournées à travers le pays.
On fait des tournées à travers le pays, dans des provinces,
les jeunes,
pour
oui.
former les jeunes. Parce qu'en fait, ce sont des matières qui ne s'enseignent pas à l'université. Mmh. À l'université, on n'apprend pas aux étudiants comment préparer un dossier de candidature, quelles sont les erreurs que vous devez éviter lorsque vous devez rédiger votre CV ou votre lettre de motivation, comment passer les interviews. Ça, c'est pas la mission de l'université. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'insertion ou l'accompagnement professionnel. Donc, il doit retenir qu'il y a les centres de formation et de reconversion professionnelle qui est un partenaire indispensable pour les chercheurs d'emploi, oui. les demandeurs d'emploi et des personnes en transition de carrière. Donc, c'est vraiment les métiers que nous sommes en train de faire. Par rapport à notre ami de Kananga, M. Tridon,
oui, M. Trudon de Kananga,
alors,
qui a parlé des logiciels
qui
peuvent éliminer certains candidats.
Oui, peut-être il a parlé de ça de manière générale, mais c'est vraiment profond et c'est important. Je vais expliquer ça. Monsieur le journaliste, il faudrait que les auditeurs comprennent une chose. Lorsque on prépare les dossiers de candidature, d'où la nécessité de se faire accompagner. Pourquoi? Parce que éviter dans la préparation de votre dossier de candidature de faire du copier-coller. Ça, c'est important. Évitez les copier-coller. Nous avons dit ici qu'un bon CV, ce qu'on appelle le CV détaillé et actualisé, c'est un CV qui doit avoir 10 rubriques. Il y a la première rubrique, détail personnel. Dans les CV traditionnels, les gens écrivent identité. Et la dernière rubrique, ce sont les personnes de référence. Donc, il y en a 10. Mais qu'est-ce que vous devez mettre comme contenu dans chacune de ces rubriques? Évitez les copier-coller. Parce qu'il a dit ici qu'il y a des gens qui copient exactement ce qui est demandé dans l'offre. Et quand on met ça
dans les logiciels, c'est rejeté.
C'est rejeté, il y a disparité. Ça, c'est une erreur. Parce que le CV, en fait, c'est quoi, monsieur le journaliste? C'est vous. Vous devez rédiger un CV qui doit être adapté aux exigences. On ne dit pas qu'il doit être copié, non. On ne copie pas le CV, où on prend le CV de M. Jody. Moi, je suis Alain. Lorsque je dois rédiger mon CV, je vais reprendre in extensio votre CV. Non. Il y a des compétences que vous possédez que moi, je ne possède pas. Donc, ce qui fait que quand on doit rédiger le CV, c'est vrai, il est important qu'on se sert de l'offre d'emploi d'abord qui est publiée.
Et adapter votre CV par rapport aux exigences de l'offre.
Aux exigences de l'offre. Mais qu'est-ce que je dois mettre dedans?
Oui.
Ce sont des choses que je maîtrise, qui sont demandées dans l'offre, que moi je dois mettre dans mon CV et dans ma lettre de motivation. Alors, si par exemple il y a certaines exigences dans l'offre qui ne cadrent pas avec mes compétences, je ne dois pas faire du copier-coller. Parce que n'oubliez pas, les recruteurs ne s'arrêtent pas qu'à analyser le CV, la lettre de motivation. Il y a l'entretien d'embauche. Là, c'est vous seul face au recruteur où vous devez maintenant vomir votre CV. Et le recruteur, lui, doit faire la comparaison entre la candidature qu'il avait reçue, et la personne qui est en face de lui. En parallèle aussi, il a l'offre d'emploi. Il va vous poser certaines questions pour que vous puissiez expliquer un peu si c'est vous qui êtes là à ces postes, telle chose par exemple, et comment est-ce que ça s'est fait. Ça me fait toujours rire, je pense souvent à certaines interviews ou certains entretiens d'embauche que j'avais passé moi-même dans mon parcours.
Oui.
C'est là que j'ai compris.
Il y avait des réponses terribles.
Non, mais il faut faire très attention. Il faut faire vraiment très attention parce que vous risquerez de dire des choses, voilà, que vous avez simplement copiées et qui peuvent vous mettre en difficulté.
Oui.
Alors, il a aussi parlé de la lettre de motivation que beaucoup, en fait, ils copient les mots qui sont dans l'offre, ils copient
et
ça.
Et ils les reprennent
oui. Non,
sur la lettre.
C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand on parle de la lettre de motivation, la lettre de motivation doit avoir 5 paragraphes. Vous voyez, ça c'est important. La lettre de motivation doit avoir 5 paragraphes. On a de l'autre côté, à gauche, à l'entête, là, on a l'identité, c'est-à-dire l'expéditaire. De l'autre côté, il y a les lieux et la date. Mais on a aussi le destinataire. À qui est-ce qu'on doit s'adresser? Mais il y a le premier paragraphe, le deuxième paragraphe, le troisième, quatrième et cinquième. Mais le troisième paragraphe, c'est quoi? C'est la motivation proprement dite. il n'est pas ici question de faire du copier-coller parce qu'il a parlé d'un élément où quelqu'un reprend, il fait les redits des tâches au lieu de dire ce qu'il a, il a réalisé. Non, on ne reprend pas les tâches du poste dans la lettre de motivation, mais par contre, on explique ce qu'on sait faire par rapport aux tâches du poste et on donne même des références. Par exemple, lors de mon stage à la Radio Capi, au département, par exemple, des finances, j'avais la tâche 2. Vous commencez à énumérer ce que vous étiez en train de faire.
Oui.
Je vous ai donné un cas il y a, dans une de nos émissions d'une personne que nous avons accompagnée qui a fini par trouver de l'emploi. Qu'est-ce que la personne a fait toute sa vie? Elle était trésorière dans une église de réveil de la place. Mais lorsqu'il y a l'offre d'emploi, on a demandé 5 ans d'expérience. La personne n'avait jamais travaillé, mais elle est restée trésorière à l'église pendant 2 ans. Nous l'avons accompagnée, on a élaboré son CV et sa lettre de motivation. Ensemble, on lui a posé des questions. On voulait comprendre qu'est-ce que la personne fait à l'église comme trésorière.
Oui.
Alors, elle nous a expliqué ce qu'elle faisait. Nous avons maintenant mis ça dans la lettre de motivation et dans le CV. Et curieusement, certaines de ces tâches qu'il fait à l'église, en tout cas, cadrent exactement avec ce que l'offre d'emploi avait demandé. Mmh. Donc, c'est pour cela qu'il ne faudrait pas postuler seul.
Il faut se faire accompagner.
Même les jeunes que vous encadrez ici, les stagiaires, tout, les jours où ils doivent maintenant postuler, en tout cas, ils devraient peut-être revenir vers vous. J'ai trouvé une offre d'emploi quelque part, chez Internews, qui a besoin d'un assistant en communication. Comment est-ce que je vais préparer? Parce que moi, j'ai dit souvent même à ceux qui nous consultent, quand quelqu'un m'appelle, monsieur l'expert, envoyez-moi le modèle du CV de la lettre de motivation. J'ai dit non, envoyez-moi d'abord l'offre d'emploi pour laquelle vous voulez postuler.
Oh, d'accord.
Que je regarde cette offre.
Que je comprenne et à ce moment-là, l'analyse.
Et puis... Tout à fait. Et avec certains, on passe même 45 minutes au téléphone pour faire la rédaction du parcours professionnel. Parce qu'on ne peut pas faire ça sans l'offre d'emploi, sans avoir une idée claire du parcours d'abord de la personne. Qu'est-ce que la personne a comme compétence par rapport à l'offre d'emploi pour laquelle la personne veut postuler.
Bien, on va accueillir Tagamile Agati Jonathan depuis Bounia, dans la province de l'Ituri, et Thomas Ougeni de Kisangani, Boyoma Singa Mwambe. Tagamile Jonathan, bonjour. Merci de réduire le volume de votre radio, Tagamile. Vous allez suivre la partie de votre téléphone, s'il vous plaît. Allô? Allô, Tagamile?
Allô?
Oui, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Je disais, j'ai quelques questions quand même à vous poser, qui est avec vous, M. Alain Poudou. La première question est de savoir, un CV normalement doit comporter combien de pages? Que lorsque nous postulons, on nous exige la pagination. On dit au maximum, le CV que vous devez présenter doit avoir au moins 5 pages ou 6 pages. Vraiment, autrefois, on se bute devant des situations comme ça, où on n'a pas de CV. Alors, c'est la première question. La deuxième question, quel comportement à quête d'emploi peut adopter lorsqu'il offre fort le caractère interne? Il y a des offres comme ça où on a mentionné interne et externe. Parfois, ça nous fait une certaine confusion.
Oui, Tagamile, on n'a pas bien saisi, vous sortez à... je ne sais pas si vous avez activé la main libre. Si c'est le cas, merci de désactiver pour nous permettre de bien vous entendre.
Allô?
Allô, Tagamile?
Allô?
Oui, allô? Bon, je pense que là, on s'entend pas, on s'entend plus. Thomas Ougeni, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, vous nous captez.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio pour Compi. Moi, je m'en vais directement, monsieur Jody, aux questions que j'aimerais poser à l'invité, à monsieur Alepout, qui a toujours été là pour cette émission, ça fait beaucoup d'état. La première question, c'est par rapport au profil du candidat. Et qui allait pour, je ne sais pas, comment réussir une reconversion professionnelle. Vous avez parlé, mais comment est-ce qu'un candidat peut réussir une reconversion professionnelle? Ça, c'est la première question que j'aimerais poser à l'invité. Et la deuxième question, c'est par rapport aux stratégies du candidature ou de, du candidat, je ne sais pas, comment un candidat peut se démarquer des autres candidats? Ça, c'est la deuxième question. La deuxième question que j'aimerais poser à monsieur Alain Pinto. La troisième question, c'est, ça arrive au moment où on ne vous répond pas, il y a cette impasse-là. Je ne sais pas combien de temps un candidat doit attendre avant quoi de relâcher les pré-recruteurs là où il a postulé. Après combien de temps? Parce qu'il arrive que vous avez des postulés, mais ça fait que ça là, comme vous ne répond pas, il y a tout cas là, cela, je ne sais pas après combien de temps. À dater de votre dépôt de candidature, vous pouvez relâcher
le recruteur.
Les recruteurs. Ça, c'était ça mes quelques préoccupations que j'avais à l'évoquer.
Merci beaucoup, Ruffin Bansobantou depuis Likassi. Bonjour. Ruffin, vous êtes à Likassi. Bonjour. Bien, il n'est plus là. Monsieur Alain Poutou. Ah, voilà, il est là.
J'aimerais saluer encore l'invité du jour, monsieur Alain Poutou. Pour moi, ma préoccupation doit aller tout droit au but avec parfois nos papas qui sont en train de travailler dans différentes sociétés, et que ce soit privé ou soit de l'État. Parce que nous connaissons très bien que par après, ils auront le devoir vraiment de prendre l'air des comptes finales. Et maintenant, lorsqu'ils seront vraiment écartés de la société, vu l'âge qui serait avancé, et maintenant, nous sommes en train de constater que certains parmi eux sont en train de souffrir vraiment dans la société. Parce qu'après avoir, moi je ne sais pas, consommé leur montant de comptes finaux.
Des comptes finaux, oui.
Ils n'ont plus rien. Ils ont fait même, parfois des contrats avec la OU et autres. Et maintenant, quel conseil que notre invité du jour, M. Alain Poutou, peut-il donner à nos papas qui sont en train de travailler déjà, ayant voire même des cinquantaines d'années en termes d'âge, parce que lorsqu'ils vont atteindre soixantaine d'années, ils seront vraiment mis en dehors du travail. Et maintenant, pour vraiment la formation en termes d'emploi, quel conseil peut-il leur donner pour qu'ils ne parviennent pas à souffrir dans la vie?
Bien, merci beaucoup.
C'est ça ma question.
D'accord.
Merci beaucoup.
On a compris. Merci. Monsieur Alain Poutou.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à monsieur Ruffin, qui était un invité, et disons l'auditeur
fidèle
d'Okapi Service. Depuis je crois qu'il est à Likassi, oui. Mm. Alors, ce qu'il dit là, c'est vraiment important. C'est vrai que ça ne cadre pas directement avec les thèmes
du jour.
On peut peut-être revenir sur sa question. On va en faire tout un sujet pour expliquer un peu. Parce que ce qu'il dit est vrai. Hein. Vous savez, monsieur le journaliste, vous pouvez trouver quelqu'un. Dès que la personne, d'abord, si vous allez à la fonction publique, c'est vrai, la loi fixe les plafonds à 65 ans. Vous serez étonné de constater qu'il y a des gens qui ont plus de 65 ans qui travaillent. Je vous ai dit ça ici une fois. Le petit frère biologique à mon papa est décédé à 79 ans. Il décède un dimanche, mais le vendredi, il était au travail. Vous imaginez?
Il n'avait jamais pris sa retraite.
Il n'avait jamais pris sa retraite. 79 ans, c'est
pourquoi?
Que je vous dis.
Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas donné...
Voilà. Donc, ça c'est important. Mais moi, je me dis, quand vous gardez quelqu'un de 79 ans...
Qu'est-ce qu'il va produire encore?
Bon, il était vraiment... C'est quelqu'un, c'est incalibré. Hein. Mais la question, c'est qu'ils finissent encore les études. Où est-ce qu'ils vont aller? Vous comprenez? C'est-à-dire, on devrait avoir un système mettre en
libérer
place...
Libérer les postes pour permettre aux jeunes...
Voilà, on devrait avoir vraiment un système automatique. Dès que quelqu'un a 64 ans, par exemple, il y a déjà des alertes. On notifie la personne pour dire, monsieur, vous avez 64 ans, l'année prochaine,
attention,
vous en avez
65,
oui. Vous devez partir. Mais maintenant, une année avant que celui-ci ne parte, on fait venir des jeunes pour les transferts des compétences, parce que ce n'est pas à la sortie de l'université qu'on a les compétences, il ne faut pas qu'on se trompe.
Oui.
Mais maintenant, à ces gens, il faut qu'on leur explique comment vivre ou comment préparer sa retraite. Ok, c'est très important parce que vous pouvez trouver même certaines personnes qui sont retraitées dans des entreprises ou dans à la fonction publique. Ils sont des consultants, des experts nationaux, des experts dans d'autres organisations internationales parce que, en fait, on peut avoir 65 ans, on est retraité parce qu'on doit cesser le contrat de travail, mais l'expertise, vous l'avez. Vous pouvez toujours soit créer un cabinet de conseil ou un cabinet d'expertise ou alors voilà donc tout ça on va expliquer
la ça c'est là toute une, tout ça.
Voilà toute une émission qui va aider beaucoup de gens.
Monsieur Alain Poutou, cette année vous avez prévu de faire une tournée à travers le pays pour parler de ces choses, pour aider les jeunes. Vous serez à Kolwezi très bientôt, à Lubumbashi, Bunia et dans d'autres provinces. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Merci beaucoup. Dans les cadres, comme je l'avais dit l'autre fois, c'est notre contribution, les centres de formation et de reconversion professionnelle, nous avons décidé aussi d'accompagner l'État dans les efforts que le gouvernement est en train de faire dans le secteur de l'emploi.
De l'emploi, oui.
Alors nous, comme la Constitution nous autorise que tout Congolais a le devoir d'aider la nation avec son expertise. Tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être mandataire, tout le monde ne peut pas être, comment je peux appeler, voilà.
Alors, fonctionnaire.
Maintenant, nous, public, étant un cabinet d'appui, cabinet conseil de formation et d'orientation professionnelle, nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle le marathon de l'insertion professionnelle. C'est-à-dire, on va passer dans tous les chefs-lieux de nos 26 provinces. Pour organiser, pas simplement parler de ce, non, ce sont des job days, des job conférences qu'on va organiser dans les 26 chefs-lieux, voilà, des provinces.
Quasi job conférences.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, par exemple, ici à l'antenne, vous m'accordez 45 minutes, j'ai besoin de 4 heures pour expliquer aux gens les contenus du CV. Les 10 rubriques, parce qu'il y a des questions qui sont revenues ici. Combien de pages qu'il faut pour un CV? Alors, ça sera là avec les rétroprojecteurs. On explique aux participants dans la salle la rédaction du CV, allant de la première rubrique jusqu'à la dixième. Et on va faire des ateliers pratiques, de telle sorte que, en sortant de la salle, chaque participant retourne chez lui à la maison avec un modèle de CV que lui-même a élaboré avec l'accompagnement des experts. On va aussi parler de la rédaction de la lettre de motivation que beaucoup confondent à la demande d'emploi. On va aussi parler des entretiens d'embauche, comment passer l'interview, comment réussir l'entretien d'embauche. Tous ces éléments-là, c'est important. Il y a quelqu'un qui a posé la question sur comment relancer les recruteurs. Au cas où vous avez postulé, il ne vous a pas répondu.
Oui, il vous a pas répondu.
Alors, tout ça dans le job conférence, on va expliquer tous ces détails. La reconversion professionnelle. Mais quelqu'un qui cherche de l'emploi, il y a de cela 3, 4, 5 ans, il n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que la personne cherche de l'emploi qu'à des postes qui correspondent aux études faites. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la reconversion. Pourquoi? Parce que il est clairement indiqué qu'il y a l'inadéquation. Moi, j'ai beaucoup apprécié lorsque les chefs de l'État avaient ouvert les assises, là, tables rondes.
Sur l'entrepreneuriat des jeunes.
Oui, mais j'étais très content quand j'ai suivi les chefs de l'État. J'ai dit, ah, mais c'est quand même intéressant. Donc, notre numéro un du pays suit quand même aussi l'évangile de la reconversion. Donc, il a parlé de l'inadéquation qu'il y a entre la formation et l'emploi. Là où j'étais, en tout cas, je l'ai acclamé. J'ai dit, mais voilà, les chefs de l'État a vraiment touché les vrais problèmes. Mais maintenant, il faut évangéliser sur la reconversion professionnelle. Donc, l'évangile de la reconversion doit être prêché partout. Les parents doivent écouter l'évangile, les enfants doivent écouter l'évangile, les étudiants doivent écouter l'évangile.
Pour vaincre le chômage.
Mais c'est très important. Je vous ai dit, monsieur le journaliste, qu'il y a deux outils indispensables si on veut vraiment résoudre ou réduire sensiblement ou lutter contre le chômage dans un pays. C'est l'évangile de la reconversion et l'entrepreneuriat. Ce sont ces deux évangiles qui sont comme des outils pour, en tout cas, lutter efficacement contre le chômage. Donc, nous serons déjà à Kolwezi du 7 au 8 mai pour la deuxième édition
de quasi-job conférence
à Kolwezi. Après Kolwezi, nous serons à Lubumbashi. Après Lubumbashi, on ira à Bunia. il y a Kisangani qui aussi dans notre agenda.
Mbandaka,
Matadi. Donc, on va faire ça en partenariat avec les gouvernements provinciaux, parce que c'est important. Mmh. Vous voyez, on ne doit pas toujours attendre que les chefs fassent tout. Non, chacun devait aussi apporter son expertise. Donc,
bien,
ça, c'est très
un
important.
Instant, on va prendre un dernier auditeur, Désiré Moulumba depuis Lubumbashi. Bonjour, Désiré. Monsieur Moulumba, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro, Désiré Moulumba depuis la ville de Lubumbashi. Allô? Je pense qu'il est, il n'est pas là.
Oui, alors je disais que c'est ça en fait. Même bon, Monsieur Désiré qui est à Lubumbashi peut nous contacter à la fin pour qu'il ait les programmes de Lubumbashi. Et là, en tout cas, je profite de votre micro pour lancer un appel à tous ceux qui sont étudiants.
Et Lubumbashi, c'est du 13 au 14
Au 14, au 14 mai, ça sera ça la roupe sur Kilela Balanda. Okay. Donc c'est ça, c'est vraiment le programme que nous allons déjà commencer. Donc, je demande aux étudiants, il ne faut pas rêver. Vous êtes en dernière année, troisième gradué ou deuxième licence L3 ou Master 2. Vous avez déjà fini les études, vous n'avez pas d'emploi. Vous êtes parents, c'est vous qui avez payé les études académiques pour vos enfants. Il faut les envoyer, qu'ils viennent participer. Vous-même aussi, vous pouvez venir. Même les pasteurs, parce que, monsieur les journalistes, l'évangile de la reconversion professionnelle doit être prêché même dans les églises. Ça, c'est très important, parce que tout ne répond pas à la prière. Il y a certaines choses qui n'obéissent qu'à la connaissance. C'est pour cela que la Bible savait tout ça. La Bible nous a recommandé, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Mmh. Mon peuple est péri par faute de connaissances. Connaissance. Donc, il y a des choses qu'il faut vraiment apprendre. Le problème de la jeunesse n'aime pas investir dans la formation professionnelle. On a le temps d'investir à autre chose, mais pour la reconversion professionnelle, pour le développement ou le renforcement des capacités,
on
n'a pas du temps. Un diplômé d'université qui ne sait pas utiliser l'ordinateur, mais il cherche de l'emploi. Donc vous comprendrez qu'il y a un problème.
Mais il a l'argent pour acheter les méga tous les jours.
Tout à fait. Hein. Ça, c'est une grosse erreur. Donc, qui profite un peu de cette opportunité. Je demande aussi à d'autres gouverneurs, aux parlementaires.
Comment vous joindre rapidement, parce qu'on est à la fin.
On peut nous appeler au 082.
Oui.
53. 90. Mm-hmm. 016. 082. 53. 90 016. Donc on peut nous contacter pour qu'on organise aussi ensemble comment aller dans d'autres circonscriptions, par exemple électorales, de tous ces parlementaires là pour organiser
le Casi Job Conference, ce salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Alain Poutou, expert en ressources humaines, merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Au micro, c'était Jody Daniel Kachama. Esther Mamboté a assuré les lives sur les plateformes digitales de Radio Capi. Alain Goy, à la mise en onde, Benjamin Moudoumbi a assuré la coordination et la réalisation. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.